L'Observatoire de l'espace vous souhaite la bienvenue dans le Studio Cosmique pour sa saison 2. Le Studio Cosmique accueille des artistes et leur propose de documenter une hypothèse. Et si un centre d'art contemporain était arrimé à l'ISS? Est-ce que la façon de définir ce qui fait œuvre s'en trouverait déplacée? Est-ce que les limites du figuratif et de l'art conceptuel seraient dépassées par un accrochage en apesanteur? Ce sont toutes ces questions que nous proposons d'arbitrer par ces artistes qui pourraient bien devenir les premiers commissaires de l'espace, au moins pour faire l'expérience d'un art en conditions extra-atmosphériques. Pour le cinquième entretien, nous recevons donc aujourd'hui Romain Saint, bonjour.
Bonjour.
Pour vous, est-ce que être né sous une bonne étoile veut dire quelque chose ?
Je l'espère, j'espère être né sous une bonne étoile, ça pourrait être un mélange entre un bon signe astrologique et puis être au bon endroit. Capricorne.
Et vous pensez que ça vous va bien ?
On me l'a déjà dit. Après, j'avoue que je n'y crois pas trop.
Il paraît que c'est un signe de Terre, donc ça vous éloigne de l'espace.
Ça permet de regarder l'espace depuis la Terre. C'est plutôt ça, d'ailleurs, ma position, je pense.
Vous avez déjà été déçu par une étoile ?
Oui.
Laquelle ?
Des joueurs, des sportifs, des gens, des acteurs.
Par des stars !
Ah voilà, ah, oui. J'ai essayé de prendre pas au sens...
Et lesquels ?
Oh non, ça je peux pas...
Ah oui.
Je peux pas le dire.
Bon, alors avant d'évoquer plus en détail vos travaux artistiques et vos projets pour l'ISS, quelques questions sur vos préférences. C'est devenu une question rituelle. Parmi tous les objets qui sont déjà dans l'ISS, auxquels vous pourriez vous identifier ?
Alors m'identifier, je penserais à un objet pour mesurer le temps, peut-être une horloge. Ou je sais qu'il y a des belles pièces d'horlogerie dans l'ISS, et voilà, ce serait peut-être quelque chose qui m'attirerait le plus.
Parce que c'est vous qui donnez le temps, c'est ça votre idée d'association ?
Oui, peut-être essayer cette histoire de maîtriser quelque chose.
Et ce serait le timing ?
Voilà, le timing. Avoir le sens du timing, ça serait super.
Pour le titre d'une expo dans l'espace, vous préférez toujours plus haut, toujours trop tard, ou un peu plus près des étoiles ?
Le premier, je pense.
Ah oui ?
Oui.
Toujours plus haut, toujours trop tard.
Je pense qu'on a un problème de timing par rapport à...
Ah ouais ?
Bah, c'est ça qui est terrifiant, en fait.
C'est la peur d'arriver
à... la conquête spatiale, est-ce qu'elle est toujours un... C'est une sorte de défi de l'humanité par rapport à sa finitude, et puis... Pour aller où ? Pour aller au bon moment ? Enfin, y arriver à temps, disons. C'était ça.
Ouais.
C'est une grande question, mais c'est ça que ça me fait penser.
Et pour le sous-titre, vous préférez étape particulière ou boomerang général ?
Étape particulière.
Elle aurait quoi de particulière, cette étape ?
Ben, je pense que ce serait l'idée d'essayer de mesurer justement où on en est, à quel instant on pourrait se positionner par rapport à ce grand projet, disons.
Ah, donc il y aurait une logique d'ajustement qui
d'ajustement, voilà, c'est ça.
Et qui serait définitif ?
Non, ce serait juste un instant T, disons. Et puis l'idée, c'est que ce serait dans un mouvement, ça continuerait à évoluer, disons.
Est-ce que vous préférez la Lune en vrai ou en peinture à regarder ?
Alors, je la préfère... Ma peinture préférée, c'est une peinture de Caspar Friedrich qui s'appelle Moonwatcher, et c'est juste deux personnes qui regardent. Il y a quatre versions de cette peinture, et ils sont en train de regarder la lune, et ils ne regardent pas vers le haut, ils regardent vers le bas. C'est une sorte de truc assez étrange. C'est assez magnifique. Et avant, je la préférais en vrai, mais je pense que maintenant, je la préfère en peinture. Quand je suis tombé sur celle-là, disons, j'ai eu une sorte de...
Ça vous l'a fait préférer à la vraie ?
Voilà, je me suis dit, c'est ma peinture préférée, et dessus, il y a la Lune, voilà. C'était ça. Ça faisait une sorte de double d'emballage.
Ce qui vous frustre dans la vraie, alors, ça veut dire qu'il faut lever la tête, alors que vous aimeriez pouvoir la regarder en plongée.
Non, j'aime bien lever la tête pour la regarder, mais des fois, en fait, par exemple, je suis frustré parce que depuis chez moi, je ne peux pas la voir, par exemple. Je ne sais pas, je suis mal orienté, et je rate toutes les pleines lunes, les lunes rousses, ou des choses comme ça. Il faut que je descende dans le parc... Moi, j'habite dans un bâtiment, disons, dans Paris. Alors bon, la peinture, là, je pourrais la voir tout le temps.
Si on vous interroge sur votre rapport à la matière noire de l'univers, vous répondez quoi ?
J'ai un rapport de cauchemar, je pense. Je pense que c'est quelque chose qui...
Ah oui ?
Oui, c'est pas ça. Ça m'inspire quelque chose d'assez froid, d'assez... de néant. Enfin, je... En tout cas, c'est pas quelque chose qui m'inspire une confiance importante, disons.
Ah, pour vous, ça remettrait en question l'ordre du monde ou ce sur quoi on peut se baser?
Une sorte d'aspiration, oui, du contenu du monde, oui.
Est-ce que vous pensez que la question de la matière noire pourrait avoir quelconque utilité dans un test de psychologie?
Oui, j'imagine qu'on peut l'utiliser comme une tâche, mais on pourrait demander ce qu'on voit dans cette matière noire, ou sinon demander quelle température on imaginerait.
Mais vous pensez que la réponse serait révélatrice, vraiment, ou...
Dans l'évaluation d'un psychopathe, par exemple, ou de...
Oui, par exemple.
Oui, moi je pense. Oui.
Ah bon?
Oui, peut-être.
Donc vous pensez qu'un psychopathe a un rapport
à la matière? Il arrivera à projeter quelque chose. Enfin, je sais pas, un psychopathe, peut-être j'en suis.
On attendrait quelque chose.
Voilà, peut-être quelque chose qui trouverait, quelqu'un qui trouverait à l'intérieur de cette matière noire, quelque chose de très très surprenant, peut-être, soit un génie ou un psychopathe ou voilà.
Donc vous, par exemple, vous avez l'impression d'être normal du fait d'être plutôt inquiet par la matière noire?
Oui. Exactement.
Ah d'accord, vous en faites
un critère de normalité.
Ok, que feriez-vous pour obtenir un dîner en tête-à-tête avec une ou un astronaute?
Je sais pas, je demanderais ici à travers mes contacts, peut-être. Et puis
vous appelleriez le CNES, d'accord.
Oui.
Vous feriez jouer vos contacts
pourquoi pas.
Dans l'Observatoire de l'espace.
Voilà, exactement.
Vous l'avez pas fait encore?
Non, j'ai pas pensé.
Ah, donc vous allez le faire dans une heure?
Peut-être, oui.
Sitôt l'émission terminée.
Mais j'espère qu'on pourra manger avec un astronaute.
Voici l'extrait d'un flash d'Europe 2 le 24 avril 1990 avec le journaliste Karim Hassen.
Ça y est, Discovery a décollé il y a exactement 29 minutes pour une mission de 5 jours. Je vous rappelle que la navette doit mettre sur orbite demain le télescope spatial Hubble. Ce télescope est attendu par les scientifiques du monde entier comme devant ouvrir une nouvelle ère dans l'astronomie. Il pourrait permettre d'importantes découvertes sur les origines de l'univers. La mise à feu de Discovery, prévue initialement il y a 14 jours, avait été ajournée au dernier moment à la suite de la défection d'un générateur auxiliaire.
Et vous, Romain Saint, pour découvrir les origines de l'univers, vous préférez vous fier à Hubble ou à votre intuition?
Alors, non, je pense que Hubble, c'est quand même quelque chose qui peut être un peu plus, factuel, disons, que ma propre intuition. Mais donc, je peux vérifier, peut-être, après... les images.
Donc ça veut dire que vous préférez connaître les origines factuelles qu'imaginaires de l'univers ou...
Je fais un mélange un peu des deux, disons, ouais. À ma sauce.
Et elle en est où votre sauce de l'image que vous vous faites de les origines de l'univers?
Disons que je pense qu'aujourd'hui on est de plus en plus informé sur ces questions. La question spatiale, elle est convoquée même le matin à la radio, des choses comme ça, alors que peut-être c'était quelque chose de plus niche à un moment où j'ai commencé à m'y intéresser. Du coup, moi j'essaye de le reconvoquer à travers des imaginaires, la science-fiction, regarder un petit peu du côté de la pop culture et tout ça, et puis essayer de faire une sorte de mélange de sauce justement entre ces différentes données, disons.
Alors faisons connaissance avec votre travail. En 2022, dans le cadre de l'exposition Avec l'espace, vous aviez fait une vidéo intitulée Éphémérides qui se présentait comme la chronique des acteurs non humains de l'actualité spatiale. On peut d'ailleurs en trouver une version image fixe dans le premier numéro de la revue Art et Espace qui vient de sortir. Et vous mettiez vos dessins dans les pas des codes de la communication scientifique pour mieux faire entendre ce que peut être un récit des événements qui serait pleinement pris en charge par les objets spatiaux, comme le télescope Hubble justement qui observe la comète NEOWISE. Ça marche comment?
Ma pratique du...
Ouais, de se servir de ces documents-là pour les restituer sous une forme justement congruente.
Disons que ces documents-là, ils sont aussi c'est une sorte de défi un peu visuel, parce que l'espace, c'est à la fois des images qui peuvent paraître très vides, mais c'est des images aussi qui sont à la fois très spectaculaires. Alors moi, j'ai fait des collections d'images, et puis ensuite, de toute résolution d'ailleurs, notamment en utilisant des choses en basse révolution. Et puis petit à petit, je me suis écarté de ces modèles pour les réinterpréter et pour faire ma propre, disons, narration autour de ces images. C'est vrai que je me faisais la réflexion la dernière fois que je me rappelais même plus des sources, en fait, de ces images. C'était devenu de pure, de pure composition graphique, disons. Et l'événement avait un peu disparu. Après ce travail de dessin, de recomposition.
Vous avez l'impression d'avoir mûri depuis vos premiers travaux liés à l'espace dans le cadre de l'Observatoire de l'espace en 2014?
Il y a peut-être quelque chose autour de ma fascination qui s'est transformée, justement par rapport à l'accès à des documents, à l'accès au CNES, mes repas avec les astronautes. prévu. Je pense qu'il y a eu une sorte de, pour moi, comme ça, de, un rapport qui est devenu un peu plus familier. Ça a un peu changé en termes de, ça m'impressionne moins. Du coup, je l'ai déplacé vers quelque chose dans le travail qui est plus personnel, en fait. Voilà.
Parce que vous dites plus familier, mais votre premier travail, justement, donc pour La Nuit Blanche 2014, avait consisté à aller chercher une espèce de familiarité, mais un peu étrange. C'était lors d'une exposition éphémère qui s'intitulait Contact, et vous aviez travaillé à partir des archives du programme Symphonie, qui est le premier satellite de télécommunications européen qui avait été lancé en 1974, et vous aviez fait un film qui s'appelait Téléprésence, où vous mettiez un peu en jeu les images, enfin, télévisé de ce lancement.
Oui, en fait, en réalité, moi j'avais choisi d'utiliser une archive qui était magnifique avec des maquettes en fait qui étaient animées et qui montraient comment le programme Symphonie allait donc être diffusé, fonctionner. Et je l'avais inséré dans une vieille télé des années 70 comme ça, à travers un fameux logiciel, disons. J'avais créé une dizaine de scènes que j'avais rassemblées, et du coup il y avait un étrange collage, justement, qui avait cette étrangeté de fausse, une étrange fausseté, disons, et bien il y avait différentes scènes qui se jouaient en même temps que se déroulait la présentation de ce programme à des enfants qui regardaient ça devant la télé, voilà.
Mais donc c'était une scène familiale, parce qu'ils regardaient ça en plein air, dans un camping.
C'était dans un camping, donc il y avait des voisins, on entendait des gens qui étaient des Allemands, il y avait au fond une autre famille. Alors moi j'ai tourné ça en 10 morceaux, dans plusieurs endroits. Il y avait des choses qui étaient sur fond vert, il y a des choses qui étaient justement à la campagne, et j'avais du coup simulé comme ça ces fragments de camping à plusieurs endroits, et tout rassemblé ensemble dans une composition, voilà, qui durait 6 minutes. Ça
met les enfants un peu à distance de la scène familiale, du fait qu'ils sont les seuls à regarder la télé pendant que les adultes sont...
Oui, en plus, comme ils étaient... En fait, eux, je les avais filmés à part. Ils étaient à la fois à l'écart, mais ils n'avaient eu aucune interaction, en tout cas au moment du tournage, avec le reste des participants, disons. Et ça faisait qu'on voyait bien qu'ils n'avaient aucune interaction. Ils sont complètement autre part, quoi. Voilà. Et les gens qui font le barbecue, ils sont complètement séparés des autres aussi, ceux qui sont en train de jouer au ping-pong la dernière fois. Il y a juste une scène qui était la plus difficile à réaliser, où je me suis dit, ah, il va y avoir des personnes qui vont partir du fond et qui vont passer entre les différents plans. Mais il faut imaginer que c'est vraiment des calques, en fait. Et j'ai réussi à les faire passer, mais il y a une sorte de bizarrerie à ce truc où les lumières ne changent pas et tout ça.
Alors, en guise d'aperçu pas vraiment révélateur, voici le son du barbecue. C'est un vrai barbecue, il est aussi sur fond vert.
C'était deux chipolatas qui étaient préparés sur un barbecue, et le fond vert est tombé dans le barbecue. C'était une scène assez chaotique qui fait pas partie du, qui est en fait une sorte de, disons, de générique de fond. On peut l'utiliser dans un générique de fin, quoi. C'était un vrai barbecue, oui. Il faut pas le faire, d'ailleurs. Je recommande à personne d'utiliser un barbecue et un fond vert quand il y a du vent en extérieur. Ça peut être désastreux.
Qui a écrit la phrase « Cette recontextualisation renvoie aux révolutions de tous ordres qui se frayent comme à distance un chemin dans nos vies pour les transformer radicalement » à propos de votre œuvre?
Mais c'est moi.
Ah. Donc il y avait un projet de révolution existentielle derrière cette œuvre.
Cette œuvre, je me disais qu'il y avait une sorte de contraste entre ça, justement ce côté très familier, incongru, et puis ce qui s'est joué, en tout cas dans ce qui se jouait dans cette évolution technologique. Et il y avait quelque chose de vertigineux, en fait, à ces révolutions auxquelles on a très peu de... On joue un rôle mineur, disons, et puis elles nous traversent, et ça nous change complètement nos vies. Je pense à l'IA, par exemple, pour les gens qui font des images aujourd'hui. Au 1er janvier de 2022, on ne savait même pas que ça existait. Et l'année d'après, on se retrouve un peu bombardé d'une centaine de logiciels qui sont capables de faire des images à la vitesse de la lumière, justement. Et ben voilà, faut s'adapter, faut penser, repenser les choses. Qu'est-ce qu'est la création? Et ça, c'est dans le domaine de l'image, mais voilà, dans le domaine des télécommunications, des technologies, moi, ça me. C'est vrai que c'est, ça m'effraie pas, mais ça me fascine. Ouais.
Alors justement, c'est le troisième des travaux que vous avez fait, qu'on va évoquer. En 2017, vous étiez associé à Maurice Solignac et Vincent Rieff d'Orbital Views, Iceberg, pour faire une installation en réalité virtuelle qui permettait de simuler la vie dans un appartement qui serait installé sur la Lune, en faisant passer, par exemple, une fosse cafetière à l'italienne d'une étagère à l'autre, faire tomber un mug par terre, tout un répertoire d'activités, comme ça, jeter un livre sur la photo d'un chat.
Oui, ça c'était ma démo, c'est ce que j'avais essayé. De montrer un petit peu les possibilités. C'est vrai que c'était une pièce, c'était la première fois que je faisais travailler avec la réalité virtuelle, et l'idée c'était de travailler sur l'immersion. On avait le scope un peu, le décor lunaire comme ça, puis moi que j'appréciais tout particulièrement, parce que c'est vrai que je me disais, moi qui suis un peu dans la Lune ou qui regarde tout le temps la Lune, je me disais, ben là on va être sur le... ça va être le décor, disons, de cette pièce. Et j'avais décidé de travailler avec... j'étais en plein déménagement, et du coup, j'avais fait une sorte de version, en tout cas, de mon déménagement parisien en un déménagement lunaire, où on retrouvait les cartons, les choses qu'on veut jeter. J'avais imaginé aussi que, comme on était sur la Lune et qu'il y avait des choses qui étaient difficiles à déplacer, notamment le chat, c'était plus qu'une impression contre-collée, disons. Et donc, ça jouait aussi de la fausseté de certains objets, la fausseté de certaines situations, voilà. Et l'appartement n'est pas un appartement, disons, fini. C'est une sorte de scène. De prototype, exactement. Et au loin, on voit qu'il y en a plusieurs autres aussi. Donc, il y avait plusieurs personnes qui étaient qui allait déménager, un peu comme la fabrication d'un lotissement. Voilà. Parce que moi, c'était ça. J'étais en train de déménager dans un endroit qui était, où tous les arrivants étaient nouveaux, en fait, disons. Donc, voilà, j'ai rejoué ça, disons.
Il en ressort donc une vidéo qui s'appelle Lever de terre, dans laquelle donc on peut trouver voilà ce jet de livre sur photo de chat, ou bien un lancement de guitare hors de l'appartement. C'est-à-dire que la réalité virtuelle valait donc pour révélateur de ce que la réalité spatiale, ça consiste à être très encombré par des occupations pas très intéressantes, au lieu d'avoir le temps de s'émerveiller, de voir la Terre se lever.
Alors justement le twist un peu de cette pièce, c'est que on avait pensé ensemble que il y avait la question de la gravité qui était très intéressante à manipuler. Donc on pouvait jouer par exemple on pouvait faire du ping-pong, mais on avait 6 ou 7 balles. Donc on arrivait vite à court d'activité, disons. Une fois qu'on avait jeté tous les objets, il ne nous restait plus qu'une chose, c'était contempler en fait soit la désolation lunaire, ou sinon regarder par exemple la Terre à travers, juste au-dessus de la murette, voilà, de cet appartement pas fini, quoi, à travers le toit, disons.
Ah oui, donc on épuisait un répertoire d'activités devenues peu intéressantes pour passer à la contemplation.
Après, les gens s'éclataient à faire ces choses pas intéressantes, hein, justement, avec ces questions de gravité. Donc,
finalement, ça laissait pas de place à la contemplation.
On pouvait satelliser le chat avec la guitare, c'était des choses, c'était amusant quand même. Mais ça, après, voilà.
Après ?
Et après, il restait plus rien à faire, quoi.
Ouais. Mais on n'arrivait pas si tôt que ça à ce moment d'après.
Disons que ça aurait pu être utilisé, on parlait de test psychologique, ça aurait pu être utilisé aussi comme un test psychologique, dans le sens qu'il y a des gens qui rangeaient l'appartement, alors que d'autres personnes le défonçaient. Donc on pouvait se trouver dans une situation inopérante où il ne se passait rien, disons, où tout était rerangé, et d'autres où on se retrouvait assez vite les mains... vide, en fait.
Mais parce que ça fait presque une démonstration par l'absurde de ce que la réalité virtuelle serait propice pour faire une expérience spatiale, au sens où vous montrez qu'au contraire, la réalité virtuelle nous tire vers des interactions qui sont plus si pertinentes que ça une fois qu'on est dans l'espace.
Mais il y avait une sorte de banalité à ces interactions, voilà, donc j'imagine que... Après, le but scientifique de ma démarche était... comment dire... Il était dévoyé, disons.
Pour l'occasion, vous aviez commandé une musique originale à Florian Porcellon, une musique qui s'intitule, et c'est votre titre,
oui.
Moon Appartamento. court extrait donc de Moon Appartamento de Florian Porcellon. Est-ce à dire que vous vous placez dans une stratégie de mise à disposition domestique de la planète tout entière?
De la planète tout entière?
Bah de la Terre, puisque vous la mettez comme ça dans le cadre à côté d'un contreplaqué où on a mis un chat dessus. Et...
Oui, c'est... c'était la Terre, en tout cas, les souvenirs de la Terre, c'était ça qui m'intéressait. Les souvenirs de la Terre sur la Lune. Ça, je pense que vraiment, là, à la base, j'avais fait une série de dessins, en fait, qui étaient des sortes, justement, de contreplaqués, comme des décors, en fait, des décors de cinéma, et qui montraient des souvenirs terrestres, comme des arbustes, des animaux, des façades de maisons, certaines voitures, des choses comme ça. Et ça a été la matrice, en tout cas, de cette pièce. Et cette pièce, elle a gardé ce caractère très nostalgique de la Terre. Quand on est sur la Lune, en fait, ce qui va nous manquer, c'est la petite machine à café, le chat, peut-être un objet de divertissement, la radio aussi qui diffuse ce son. Là, il y a une sorte d'altération comme ça, parce que plus on lançait cette source sonore loin, ou plus elle quittait l'appartement, plus elle était altérée comme ça et moins on l'entendait. Donc ça veut dire que même la bande son de cette pièce pouvait disparaître, en fait. Ça, c'était important pour moi, voilà, qu'on pouvait se retrouver dans un état d'isolation assez, assez déplaisant aussi.
Parce que tout devient désuet.
Voilà.
Le 25 janvier dernier, dans le cadre de son projet Iris, la NASA a publié une image surprenante de la planète Mars avec une formation géologique qui rappelle une tête d'ours. Vous pensez que c'est ni plus ni moins qu'une paréidolie, ou qu'il est urgent de chercher si c'est un vrai Mars hoax, ou qu'il est encore plus urgent de chercher un artiste qui veut bien signer l'image pour l'exposer?
Je prendrai la troisième. Je trouve qu'il va falloir faire une collection de ces images. Il va falloir les signer, en fait. Voilà. Je l'ai reposté, cette image-là.
En la signant?
Bah oui, puisque de toute façon...
Oui, le fait même de la reposter.
Le fait même de la reposter
est
en ready-made, voilà.
Est-ce que vous avez vous-même fait tout un projet avec les Moon Movies?
Oui, c'est vrai que c'était un des premiers projets que j'avais fait. J'avais exposé au Palais de Tokyo. Et j'avais récupéré... Alors à l'époque, il y avait quand même des questions de résolution qui étaient très différentes de celles d'aujourd'hui. Les clips sur Internet étaient microscopiques en termes de taille. Et moi, j'avais récupéré plein d'extraits dans des DVD de la conquête spatiale. Je les avais remodifiés, en fait. Des histoires d'apesanteur, des histoires de vitesse, des petits bricolages comme ça. Et mon idée, c'était de retourner les propositions des gens qui parlaient des Moon Hoax, justement, là, ce qui se passe dans cette vidéo, c'est trop bizarre. Et du coup, je le remettais, comment dire, comme ça devrait être. Et ça retournait les propositions à la fois des gens qui... Alors, c'est vrai que la conspiration, c'était pas un mot qu'on entendait beaucoup à l'époque, mais ça m'avait un peu intéressé, voilà. Et j'avais convoqué cet imaginaire dans cette série de vidéos. Et quand les vidéos tournaient comme ça en boucle sur deux écrans, et on savait plus ce qui était vrai, ce qui était pas vrai, ou en tout cas ce qui était l'archive originale, de toute façon, une fois qu'elle est recompressée, passée dans le logiciel, c'est déjà plus la même. Et ça jouait de notre familiarité avec ces images, en fait. Voilà.
Et quand vous dites la conspiration, c'est pas mon truc, en quoi vous mettiez les images à un autre endroit, justement?
Non, mais c'était pas un mot, disons, qui était. Il avait une autre connotation,
oui.
Disons, à l'époque, qu'aujourd'hui, il y a une dimension politique plus forte, disons que.
Ah oui, parce qu'il y a eu une appropriation de ces images.
Oui, c'était plus un truc de connaisseurs, de gens qui ont toujours l'impression de voir des trucs. Bon, c'est un peu ça la conspiration, mais d'être plus malin que les autres, à voir que les règles de la science s'appliquaient pas à ces images ou des choses comme ça, ou c'est la question des ombres aussi, où moi j'avais retouché les ombres pour les remettre, ou pour faire genre comme s'il y avait quatre projecteurs ou des choses comme ça. C'était une sorte aussi de, en anglais le mot c'est bloopers, mais ce serait les accidents, en fait, d'un supposé tournage de ce qui se serait passé autour de ces missions lunaires. Donc ça désactivait un peu ce... Ça allait tellement loin, disons, dans la manipulation d'images, que ça désactivait aussi ce regard de conspiration, disons.
Dans le premier numéro de la revue du droit insolite, Valentin Bétain et Raphaël Costa ont signé dans un guide pratique à l'usage du chasseur de météorites le fait que en France, enfin ils ont pointé dedans que en France, tout chasseur de météorites qui procède dans des forêts domaniales et y trouve son bonheur est intégralement le propriétaire du caillou. Le juge ayant admis que les météorites, bah, produits tombés du ciel, sont bien des choses sans maître, alors qu'au Danemark, la météorite qui présente une valeur exceptionnelle sur le plan scientifique est considéré comme un trésor fossile et donc doit être remise au musée d'histoire naturelle. Côté centre d'art de l'ISS, on serait plutôt dans l'école française, ambiance collection privée, ou dans l'école danoise?
Moi, je pense que le... J'aime bien les deux, en fait, c'est ça le...
Ah.
Je pense qu'il faudrait les couper en deux. Une partie pourrait partir dans la collection, soit du CNES ou... national.
Ah, solution d'économie mixte, c'est ça.
Exactement. Et puis, on peut avoir ne serait-ce qu'un petit morceau pour chez soi, pour avoir quand même le souvenir de cette rencontre avec un objet spatial, et puis aussi avoir une sorte de paternité, disons.
Donc, petit prélèvement.
Un petit prélèvement. Début, je voulais couper à la moitié, maintenant, je me ravise et un petit morceau.
Ce serait le pourcent patronal.
Ouais, exactement. La gabelle, un petit morceau. Et puis peut-être
le reste au muséum.
Un petit mot du muséum pour dire qu'on a participé à leur collection. Tout un petit packaging, voilà. Je pense que c'est une bonne solution.
Alors, nous allons vous faire entendre une situation très spatiale et vous proposer de l'identifier. Est-ce que ça monte ou que ça descend?
Ça tourne, ça monte.
Comment c'est que ça monte? Et quoi monte? Pourquoi ça monte?
Je pense que je vais revenir sur ma réponse. Je pense que ça va sur le côté. C'est une translation. Ça a l'air d'être
un crabe.
C'est quelque chose qui est en train de peut-être de se nouer ou de se visser, mais tout doucement.
Ah.
C'est un emboîtement.
Engrenage.
Un engrenage, voilà.
Ah oui, donc ça tourne sur soi.
Ça tourne sur soi.
Mais en engageant autre chose.
Ça peut monter de quelques centimètres, mais c'est plutôt je vois plutôt un engrenage.
D'accord. Alors en réalité, bah, c'est le son d'un van qui ralentit, mais inversé,
ah, ouais.
Et superposé au son non inversé, mais abaissé d'une quinte.
Voilà, bah ça c'est un peu en plus c'est un peu le genre de banque sonore que j'utilise. Je me suis fait un peu.
Enfin, un peu transformé. Mais nous sommes donc à mi-parcours de ce studio cosmique. Vous dans la vie, quand est-ce que vous êtes sûr d'être à mi-chemin?
À Bordeaux.
Ah, parce que vous faites souvent...
La navette Paris-Bayonne, et alors j'ai un milieu, voilà, c'est en pile au milieu, je sais que je suis à Bordeaux, c'est le moment où je rallume mon téléphone, j'envoie un message pour rassurer ma famille que ce voyage, ce périple est en train de bien se passer, ou pour dire Bob, je vais arriver à telle heure, ou il manque encore, je vais avoir une demi-heure de retard, voilà, c'est le milieu, c'est Bordeaux.
Ah, donc le mi-chemin, c'est aussi pour vous le moment de signaler que tout va bien ou presque.
Oui, c'est ça. C'est
d'accord.
On peut lever le pouce, on peut dire tout se passe bien ou tout d'accord. Se passe mal.
Okay.
C'est aussi le cas, ça peut arriver.
D'accord, donc pour le studio cosmique, tout se passe bien, ça va.
Tout se passe bien.
D'accord. Alors maintenant qu'on connaît un peu mieux votre manière de vous acheminer, eh bien on va découvrir plus en détail votre projet pour le Centre d'art de l'Observatoire de l'espace. Imaginons, vous voilà curateur pour le centre d'art Arimel-ISS d'une taille sensiblement similaire au module Columbus, soit 75 mètres cubes. On est à un peu plus de 4 mètres de diamètre, à peu près 7 mètres de longueur. Comment vous envisagez de le remplir artistiquement?
Voilà, bon, je dois d'abord énumérer un certain nombre de fausses bonnes idées.
Ah, je croyais que vous alliez faire des remerciements. À toutes les personnes qui ont pu financer, et ainsi de suite. Non.
La question du budget sera évoquée à la fin. Non, c'est vrai que j'ai réfléchi. D'abord, j'ai travaillé un peu par élimination et j'ai essayé de. J'avais plusieurs idées qui se sont rassemblées après dans une dernière idée. Donc, j'évoquerai à la fin. Donc, au début, je voulais faire une expo d'amis avec mes amis.
Ah oui,
mais,
comme tout le monde, quoi.
Exactement. Oui. Mais ça pose des énormes problèmes parce que il va falloir justifier qui a quoi, qui va faire ce voyage. Et puis parce que c'est vrai que ça va transformer sensiblement le curriculum de la personne sélectionnée. Oui. Donc ça fait des jaloux en fait. Donc ça c'est une très mauvaise idée.
Donc pour suspendre la jalousie, vous ne contactez que des gens que vous ne connaissez pas.
J'ai quelques, il y en a quelques. Mais bon, on va voir que ça a du sens, voilà. Ensuite, j'étais intrigué par la notion de remake, de faire un remake d'une exposition qui m'aurait marqué, comme No Man's Times par exemple d'Eric Troncy. C'est-à-dire des choses qui moi m'ont marqué en tant que regardeur d'art. Et ce qui m'intéressait, c'était de les déplacer du coup et de les revoir à un autre endroit.
Donc faire une version spatiale d'expos qui ont été marquantes pour vous sur Terre.
Exactement. Et puis d'avoir cette nouvelle version spatiale et puis voir comment ça jouait et à quel point ce déplacement transformait un petit peu le regard, quoi. Mais ça va être aussi reconvoqué dans mon projet. Ensuite, il y avait une exposition où on aurait pu demander à des astronautes le genre de pièces qu'ils font, s'ils font de la peinture ou des choses comme ça. J'ai demandé à une IA aussi qui m'a... Alors, je sais que c'est très évoqué en ce moment, mais elle avait une idée intéressante. Elle disait qu'il fallait utiliser aucun élément terrestre dans l'exposition. Mais ça m'a bloqué, en fait. J'ai trouvé ça assez...
Parce que ça venait de l'IA ou...
Les deux. Mais j'ai trouvé que c'était très pertinent, mais c'était aussi une question infinie. Ça compliquait la situation drastiquement, disons. Ensuite, une exposition préhistorique. Bon, voilà, il y avait tout un mélange de propositions. Et puis, bon, au final, je...
Parce qu'une méthode pourrait être d'imaginer ce qui serait le pire.
La pire des fausses bonnes idées. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être la mienne, en fait. Vous allez voir. Oui, oui, oui. En tout cas, c'est... il y avait une exposition de monochrome. Alors, c'était une histoire de déplacement aussi. Il y avait toutes ces questions de la logistique, des rayonnements, d'abîmer les pièces. Bon, voilà, ça, c'était quelque chose... Ça devenait un truc où il y avait tellement de contraintes que j'arrivais pas vraiment à m'en sortir. Et finalement, en fait, j'ai décidé de faire une proposition autour de la thématique du hobby, en fait. Donc...
Parce que ça, c'est vous avez énuméré les fausses bonnes idées. Ouais. Est-ce que vous avez cherché des vraies mauvaises ?
Non, des vraies mauvaises. Non, j'ai pas eu le temps. Non, je pense que
ça serait quoi la différence ?
Je pense que c'est l'intention. L'intention de la fausse bonne idée, ça, c'est vraiment. C'est...
Elle reste bien intentionnée.
Elle reste bien intentionnée. Elle le porte en fait, cette bonne intention. Ça se voit. On dit il a, c'est vraiment, c'est raté, mais c'était bien tenté ou c'est tenté avec beaucoup de. Du cœur, disons.
Ah oui, voilà. On l'aime quand même.
On l'aime. Oui, elle est acceptable. D'accord. La proposition est acceptable. Ouais.
Donc les hobbies, finalement, voilà, vous êtes. Ouais.
C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me travaille. On voit que on a parlé un petit peu de certaines pièces où il y a toujours ce caractère familier, le fait qu'on pouvait manipuler des choses. Il y a la question aussi du mémorabilia. Quand j'avais fait Moon Appartamento, je me disais ben voilà, qu'est-ce qu'on amènerait si on amenait quelques objets sur Terre, et même des facsimilés de ces objets. Donc, pour continuer un petit peu dans avec cette proposition, je me suis décidé de trouver des artistes aussi, bon, donc c'est vraiment qui ont des pièces, en fait, qui sont soit matérialisées à travers des pratiques qui relèvent du hobby, comme par exemple le tissage, le tricotage, des choses comme ça, ou qui, disons... ont comme thème une obsession, une collection.
Parce que les mémorabilia, une fois dans l'espace, sont plus les mêmes.
Voilà, ça. Par exemple, il y a une des pièces, si on prend cet exemple, c'est une fausse balle de baseball signée par les New York Yankees. C'est une pièce de Bernie Kaminsky.
Et c'est existe sur Terre, non ?
Qui existe sur Terre. Et c'est une pièce qui fait un écho à des choses qui se collectionnent, donc des objets, par exemple, de sport, des mémorabilia, et qui, une fois montrés dans un musée ou dans un espace d'art, eh ben on se dit, ah tiens, on peut montrer une balle de baseball ou on peut montrer une fausse balle de baseball. Une fois sur Terre, ça devient... J'ai l'impression qu'il y a un effet comme ça d'écho ou d'amplification où ça devient un souvenir de la Terre, disons. Et on n'a même pas droit à la vraie chose, disons. On a le droit qu'à se facsimiler comme ça. Donc les pièces en fait que j'ai choisies, c'est des pièces qui jouent un peu sur ce registre-là.
Parce que en fait, ça permet en les mettant dans l'espace de les mettre à un nouveau niveau de réalité.
Voilà, un nouveau
ou de déréalisation presque.
Voilà, c'est ça. Elles sont encore plus rares, elles sont encore plus petites aussi. Elles sont encore. Voilà, je trouve que ça leur donne un nouveau regard, disons.
Parce qu'un hobby qui est dans sa trace signé comme œuvre d'art sur Terre, c'est quasi un ready-made.
Voilà.
Mais dans l'espace, c'est encore autre chose.
Ça devient un ultra ready-made ou un extra ready-made.
C'est quoi un exo ready-made?
C'est une œuvre d'art.
Ou... Ah, oui, mais ça, oui. Mais parce que c'est vous qui le dites, de toute façon, on vous
croit.
Mais
là, ouais. Pour l'instant, je suis obligé de rester sur ma position, de les assumer comme œuvre d'art.
Il y aurait quoi d'autre?
Alors, il y a une des pièces qui est des plus intéressantes, c'est un pullover de Joanna Jackson.
Ouais.
Et c'est un pullover sur lequel, ça a l'air d'être un pullover pour enfants. Et dessus, il y a un bateau dans la neige. Et il s'appelle A Ship in the Snow. Voilà. Et donc, c'est littéralement un pull qu'on peut trouver dans une solderie ou sur une brocante. Et celui-là, il serait donc exposé dans la station spatiale. Il y a une autre pièce aussi qui est une...
Mais ça implique un autre mode d'exposition ?
Celui-là, en fait, sur Terre, il est sur une tringle avec des pièces en céramique. Mais là, je pensais que... Je parlerai de l'accrochage à la fin, mais je pense que celui-là, il est justement un peu en suspens. Mais en tout cas, c'est une pièce qui a l'air d'être la plus, disons, familière ou la plus commune, disons, mais elle est assez centrale dans ma proposition. Ensuite, il y a des vidéos aussi. Oui. Il y a une vidéo de Sean Caldwell, qui est un artiste australien, et c'est un skater qui tourne sur lui-même, qui fait des 360, qui fait des figures de freestyle comme ça. Et au loin, il y a une tempête qui arrive. Voilà. Donc il y a plusieurs pièces.
Parce que le 360, une fois dans le module du centre d'art, c'est plus si spectaculaire, c'est juste le cadre.
Le 360, alors la pièce, elle joue de... Il y aurait plusieurs 360 qui joueraient en même temps,
ouais.
Puisqu'il y a un 360, celui de la tempête, celui du module, et il y aurait une sorte d'emboîtement des différentes rotations.
Ouais.
Et il y avait un autre élément aussi, j'ai choisi cette pièce, et j'en parle justement après celle de Joanna, parce qu'il y a plusieurs pièces dans mon exposition qui ont comme motif les saisons ou le temps, en fait. Mm-hmm. Le temps qui pas le temps qui passe, mais le temps qu'il fait. Donc il y a une neige dans une des pièces, en tout cas sur le pull, il y a une pièce sur laquelle il va plus que pleuvoir, ça va être vraiment la tornade, disons. Et donc voilà, j'aimais bien aussi que on parle du temps libre, en fait. D'ailleurs, c'est le nom de l'exposition.
Temps libre. Finalement, c'est temps libre. Oui, c'est pas libre. Comme on avait dit tout à l'heure.
J'ai changé de nom ?
Non, 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 mais vous aviez validé étape particulière.
Ah oui, oui, d'accord. Mais bon, ça c'était le...
Oui.
Bon, étape particulière, c'était pas mal. Mais bon, ça peut être renommé. D'accord. Ou sous-titré,
temps libre.
Sous-titré, temps libre. Et c'est vrai qu'il y avait...
Mais il devient plus contraint une fois qu'il est dans l'espace, tout ce... non ?
Oui, oui, c'est le temps libre. C'est une, comment dire, une analyse, en tout cas, un regard comme ça sur le temps libre humain et terrestre, disons.
Alors, il y a quand même une question de recyclage qui traîne par là et qui est justement une question qu'a posée Emanuele Coccia dans le cadre du podcast Les Voix de la Vallée, qui a été produit à l'occasion de l'exposition de Fabrice Sibert à la Fondation Cartier. Je vous propose d'écouter un extrait.
Parce que la question des débris, c'est une question, au fond, omniprésente et c'est une question qui rend indifférente la question sommes-nous dans l'espace ou sommes-nous dans la Terre. La question du débris devrait nous pousser à faire exploser la question de la créativité face à des objets dont on ne connaît plus l'usage ou qui ne nous servent plus à l'usage pour lequel ils ont été construits. On devrait même appeler peut-être les artistes à inventer des nouvelles vies, à faire ressusciter ces objets face à nous et à faire ressusciter du coup notre vie.
Alors est-ce que c'est ça, au lieu des pulls de Joanna Jackson, il ne faudrait pas demander à Joanna Jackson de customiser des débris spatiaux ?
Alors les débris, moi c'est quelque chose qui me fascine. En tout cas, c'est vrai que je me suis posé la question de leur collecte aussi. Ça c'est vraiment techniquement quelque chose de passionnant. Et il faut exposer les débris, ce serait, ou en tout cas les reconstruire, peut-être les réagglomérer, ça pourrait être une pratique et quelque chose d'intéressant, quoi.
Mais quand Emmanuel Coccia dit qu'il y a une opportunité pour ressusciter nous-mêmes, ça veut dire qu'on pourrait retrouver une forme de vie en redonnant un statut à ces objets, ou...
Moi, je l'entends comme je l'entends d'une manière très terre à terre, presque de recyclerie, en fait.
Ah oui.
Ouais.
Et ça veut dire que vous allez redistribuer la part de jeunes artistes et d'artistes morts à l'échelle de cette exposition?
Oui, je pense que déjà c'est quelque chose. C'est vrai que par exemple les artistes morts, je l'avais pensé dans mes fausses bonnes idées, parce que j'aimais bien cette idée de les ranimer à travers hors de la terre, disons. Dans l'espace, comme des fantômes spatiaux. Ça, c'était vraiment une image qui me marquait. Et du coup, oui, je pense que leur présence était nécessaire. D'ailleurs, sur le carton d'invitation, j'aurais utilisé une partie d'échec entre Duchamp et Dali qui a été photographiée. Puisque, en fait.
Donc, vous feriez un reenactment dans l'espace ou...
je pensais Là, c'est très, très, très difficile, techniquement, je pense, de jouer aux échecs, ouais. C'est pour ça que m'étais arrêté à cette image en surface. Et puis, il y avait aussi, par exemple, John Cage, c'était l'artiste. En fait, je voulais vraiment un artiste comme ça, un artiste décédé, qui serait marquant et puis qui serait, dans ma distribution, en tout cas, il y avait des artistes confidentiels et des artistes plus confirmés. Et John Cage, c'était l'artiste que j'avais pensé comme le gros artiste, disons. Et comme c'est quelqu'un qui était passionné par les champignons, c'était son hobby et plus que ça, c'est devenu sa passion. Je voulais montrer des dessins et puis peut-être une pièce sonore qu'il a réalisée qui s'appelle Mushroom. Pour Haiku Mushroom, ça s'appelle. Voilà. Mmh. Et ça, c'était une pièce qui pourrait être diffusée en termes de son pendant l'exposition.
Et qui viendrait rythmer.
Qui viendrait rythmer, oui.
Quel serait le rapport au temps, puisque vous disiez tout à l'heure que vous voudriez être dans l'ISS, un des éléments de mesure du temps.
Toutes les 4 minutes 33, on pourrait utiliser la pièce du silence de John Cage pour rythmer ce temps et puis on pourrait rejouer ensuite le Mushroom Haiku toutes les 4 minutes 30. Alors peut-être que pour le spectateur ça serait usant, mais 4 minutes 30 ça me semble assez, c'est très court d'ailleurs, hein, le Mushroom Haiku ça dure une trentaine de secondes, donc ça me semblait raisonnable en tout cas.
D'accord. Est-ce que le carton d'invitation sera en carton?
Et alors, pour des raisons de sûreté, disons, j'aurais bien aimé que ce carton soit mangeable, un petit peu comme les derniers emballages d'une célèbre marque de fast-food. Et du coup, ça serait une sorte d'amuse-gueule comme ça, ou d'amuse-bouche pour les invités pourraient commencer, en tout cas, manger le carton pendant le vernissage.
D'accord. Et donc, il n'y aurait pas d'audio guide, puisque l'espace sonore sera déjà pris par les deux pièces de Cage en alternance.
L'espace sonore est pris par les pièces de Cage. Et j'avais une autre pièce aussi qui est très présente, en tout cas, qui est difficile à faire tourner en boucle, qui est une pièce de Corey Archangel. C'est un mélange, en tout cas, de gens qui jouent le cinquième caprice de Paganini. À la guitare, et sont syncopés. C'est une centaine de vidéos qui sont syncopées. Du coup, c'est quelque chose de très strident comme ça. Et ça, il faudrait l'écouter au casque.
Ah.
Ouais.
Qui serait dans un coin. Okay. Non, il n'y a pas de coin.
Il n'y a pas de coin, ce serait au fond.
Ou au milieu.
Au milieu, voilà.
Au fond ou au milieu?
Non, au fond.
D'accord.
Il faut vraiment un support, là. Je pense qu'il faut, il faut que ça touche quelque chose.
Un artiste mystère vous propose une œuvre.
Oui, bonjour Romain Saint. Comme je sais que vous êtes sensible à la force de l'espace, à donner une nouvelle dimension à nos objets terrestres, je propose une installation qui consisterait à vous refiler ma collection de magazines Ciel et Espace des années 70 et à la balancer en flottement dans le centre d'art pour donner un regard neuf sur la presse spatiale d'il y a 50 ans. Cela vous intéresserait ?
Alors, merci beaucoup pour cette proposition. Effectivement, elle correspond parfaitement à mon envie de montrer des collections et de ce rapport au temps libre et puis à l'attachement qu'on peut avoir à nos objets terrestres. Vraiment, dans nos... dans ces temps qui ne sont pas des temps travaillés ou des temps nécessaires, disons. Le problème, c'est l'histoire, c'est le nombre de volumes, en fait, de magazines que vous voulez nous donner.
Apparemment, toute la collection.
La collection, ouais. C'est combien de...
Bah, je sais pas, l'artiste ne le précise pas, mais... C'est quand même apparemment toute sa collection de magazines Ciel et Espace des années 70, donc c'est alors, potentiellement 10 années.
Ça peut très bien, peut-être que c'est ce qui manquait peut-être dans mon exposition, parce que moi je pensais justement que ce cylindre pouvait ressembler à une sorte de chambre d'adolescent ou de personne dans laquelle il y aurait des pièces qui seraient fixes et d'autres pièces qui seraient maintenues par des câbles, mmh. notamment des petits objets comme la balle de baseball ou le pullover, bon voilà. Et donc si on peut laisser flotter les magazines comme ça, il y aurait une sorte d'animation. Il faudrait pas que ça soit trop dangereux non plus. Je sais pas si à travers les systèmes de rotation et tout, ces magazines peuvent être coupants. Faut voir aussi dans quel état ils sont, puisque ils peuvent trancher peut-être. Donc voilà, il ne faut pas que ça devienne une sorte de machine infernale. C'est quand même une exposition qui doit être safe, disons.
Vous êtes enseignant à l'École des Beaux-Arts de Biarritz. Vous parlez d'art spatial avec vos étudiants. Vous imaginez comment les introduire à ces opportunités nouvelles qui vont se présenter?
Alors, quand l'occasion se présente, quand il y a... ça arrive hein, qu'il y ait des étudiants, des fois, qui aient un petit peu des envies comme ça de... ou qui convoquent l'espace dans leur travail. Et puis là, du coup, je peux étaler... non, je peux leur montrer des travaux de gens que j'ai rencontrés ici au CNES. Mais c'est vraiment une histoire d'occasion. Je ne pense pas que ça soit quelque chose qui...
Mais c'est une vocation que vous voyez se généraliser?
C'est...
Chez les étudiants en art d'aujourd'hui?
Faudrait que je réfléchisse à ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de propositions que peut-être un peu plus, mais on n'est pas il y a pas un changement immense en tout cas. Ça fait une dizaine d'années que j'enseigne, mais l'espace est un peu plus présent en tout cas qu'avant, et c'est vraiment lié aussi à des événements à l'actualité spatiale. Hein. Je pense que quand il y a eu le rover sur Mars, tout d'un coup. C'était dans les infos, du coup, bah, les gens ils ont commencé, peut-être dans les écoles d'art, à fabriquer des rovers ou des choses comme ça. Ou en tout cas, c'est devenu une image populaire. Voilà, et
ça a fait mouliner les imaginaires.
Ça a fait mouliner les imaginaires, exactement.
Notre précédente invitée, Sylvie Bonneau, nous a décrit l'œuvre qu'elle entend laisser dans ce centre d'art de l'ISS. Donc avant de vous interroger, Romain Saint, sur celle que vous voudriez laisser, bien écoutons ce que Sylvie propose.
Alors moi, j'ai pas pu écraser un rouble à Baïkonour, mais j'ai pu écraser une vierge à Kourou sous la forme d'une médaille. Donc je vous propose de découvrir cet objet que j'ai apporté.
Donc là, vous avez dans les doigts une médaille assez grosse.
Oui, c'est une...
Pas tout à fait régulière en épaisseur.
C'est le passage de Soyouz qui a créé cet aspect oblong. Je vous laisse la découvrir.
D'accord. Donc c'est lourd quand même.
Elle est un peu dorée.
Et vous dites c'est une vierge. C'est vous qui l'aviez apportée?
J'avais rapporté mes roubles en prévision de les écraser à Kourou. Soyouz pour Soyouz, Kazakhstan, Guyane, l'intention est la même, le résultat devrait l'être. Et toujours est-il que je n'avais sur moi que cette médaille qu'on m'a un jour donnée comme gris-gris. La raison pour laquelle je propose cet objet, c'est qu'en fait, on voit les traces de l'écrasement. Je pense que ces pièces écrasées, elles marquent quelque chose de l'ordre de l'interface entre l'état, le changement de support habitable, la Terre ou pas.
Comme quoi la trace de l'espace sur un objet peut être littéralement écrasante. Ça vous donne envie de reconsidérer les questions de poids, de mesure?
Là, je pense que j'avais en tout cas l'idée d'une ou une envie de légèreté aussi dans mes propositions. Je pensais que l'espace, ça permet de... Il y a quand même aussi sur Terre des fois des envies, notamment pour les artistes, d'avoir des pièces justement qui sont spectaculaires, qui ont du poids. Le bronze, machin. Et l'espace, ça fait reconsidérer complètement ça, ne serait-ce que pour des histoires de transport, d'embarquement. J'imagine, vu le prix des transports sur Terre pour acheminer des pièces, qu'avec l'espace, on a tout intérêt à avoir des choses très légères.
Vous aviez évoqué la question du financement, vous avez réfléchi là-dessus?
Oui, c'est très... moi, j'ai pensé que les pièces devaient être préexistante ou en tout cas qu'il y avait quelque chose comme ça, et j'ai vraiment pensé aussi la question de ces volumes et tout ça, d'avoir des pièces qui étaient de toute façon, par leur conception et aussi par leur rapport aux faits main et tout, étaient des pièces qui étaient relativement menues, en tout cas.
Ah oui,
et qu'il y avait beaucoup d'espace vide, en tout cas, dans mon...
Et qui ne souffraient pas des possibles dédommagements, enfin des possibles accidents qui pourraient arriver.
Voilà, elles pouvaient être rassurées assez facilement. Et puis, je pensais aussi que ces pièces-là, bah, d'une certaine manière, si elles avaient un retour sur Terre,
oui.
Bah, elles vivraient une deuxième vie avec... en chérie, disons, de leur nouvelle patine spatiale. Oui. Voilà.
Et alors vous, Romain Saint, quelle œuvre vous laisserez dans l'ISS ?
Alors, moi j'ai... en fait, c'est une toute petite œuvre, justement, pour des caisses. Elle pourrait même être amenée par un astronaute dans la poche. C'est un peu comme la pièce en haut. C'est un chewing-gum sur lequel j'ai sculpté mon visage. Voilà, c'est une pièce, c'est mon seul autoportrait, mais c'est un conglomérat de malabar et qui ont ma tête, en fait, voilà. Et c'est une pièce que j'ai toujours montrée, j'ai montré une seule fois, je l'ai montrée en Estonie, et elle était collée sous une table, voilà. Donc je pense que je la laisserai...
C'est une œuvre qui n'aura jamais été vue qu'en Estonie et dans l'ISS.
Exactement, et on la voit même pas, en fait. Parce qu'on se dit, oula, mais qui a laissé un chewing-gum
Mais si l'astronaute se mettait à mâcher le chewing-gum, ce ne serait plus un autoportrait.
L'idée, c'était qu'on reste avec mon ADN seul sur ce chewing-gum. Mais voilà, elle peut être détruite, oui.
Ouais, c'est quand même un danger. Enfin, relatif, mais...
Après, quelle est l'envie de chewing-gum qu'on peut en voir dans l'ISS ? Ça, je n'ai jamais pensé à cette question-là.
On va peut-être demander une étude avant.
Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui donne envie de mastiquer? Peut-être que c'est une œuvre collective ou que ça peut être juste un chewing-gum qui est mâché par tout le monde. Mais en tout cas, bon voilà, moi, mon idée, c'était que c'était une pièce qui pourrait passer inaperçue, même si, une fois déplacée dans l'ISS, je pense qu'on verrait que ça, en fait. Elle crierait, en fait. Mais qui a posé ça, là?
Merci beaucoup, Romain.
Merci beaucoup.